Bonsoir. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir à la Maison de la Poésie. Merci à Marguerite Capelle, qui est interprète et qui va traduire notre discussion ce soir avec Ta-Nehisi Coates. Ta-Nehisi, vous êtes journaliste et écrivain, actuellement en résidence d'écriture, je crois, à l'université de Howard. À Washington, où vous avez par le passé étudié. Vous avez publié notamment en 2021 « La danse de l'eau », un roman, et en 2016 ce livre « Entre le monde et moi », récompensé par de nombreux prix, dont le prestigieux National Book Award, livre qui vous a fait connaître dans le monde entier et qui fut salué par Toni Morrison et Barack Obama. Dans cette lettre poignante et percutante que vous adressez à votre fils Samori, qui était alors âgé de 15 ans, vous racontez à partir de votre propre vie, de votre enfance à Baltimore et de la mort de l'un de vos amis, Prince Jones, comment les États-Unis et le rêve américain, que vous nommez simplement le rêve, avec une lettre majuscule, on aura sans doute l'occasion d'en reparler ce soir, se sont construits sur la destruction et l'anéantissement des corps noirs, hier mis en esclavage et aujourd'hui tués à bout portant dans les rues par des policiers en exercice. Ce livre a été traduit, donc paru en 2015 aux États-Unis, a été traduit une première fois en 2016 par les éditions Autrement, sous le titre « Une colère noire ». Et il est aujourd'hui retraduit par Karine Lalechère sous son titre donc original « Between the world and me »,« Entre le monde et moi ». Et cette nouvelle édition étant augmentée d'une préface inédite que vous signez vous-même. Donc ce nouveau visage, cette nouvelle vie pour ce livre, nouveau votre présence à Paris et en France ces jours-ci. En quoi ce nouveau geste éditorial, cette nouvelle traduction française, est un événement important pour vous?
Donc, merci pour l'introduction. C'était très, très gentil. Merci.
Je vous en prie.
Ça, c'est tout le français pour moi, pour ce soir. I think when any writer sits down and tries to write a text, you're hoping for a kind of timelessness. About your words, if you're lucky. But I think one of the unfortunate things about being a Black American writer is that it's always timeless, unfortunately. Because the conditions are the conditions, and at their root base level, they take a very, very long time to change. I was very touched by the reception for the original translation for the book. And yet, whenever I, in fact, it might have happened for the first time here. Whenever I did events and there were Black, French people in the audience, they would say, wow, I really like this book. I love this book. It's very exciting. Why did you give it that title? And I think there were good reasons for why that was the case. But I was very sensitive to the black community here in this country. And I wanted them, even though I'm a black American, I wanted them to feel the connection, especially here. Not just with the text, but with the cover also.
Je crois que tout écrivain qui s'installe à son bureau pour écrire un livre a un espoir, qui est que cette œuvre, ces mots qu'il pose sur la page, soient intemporels. Mais un des malheurs d'être un écrivain noir américain, c'est que je crois que malheureusement, tous les sujets qu'on aborde sont par nature intemporels, parce que la condition qui est la nôtre reste la même. C'est quelque chose qui est si profondément enraciné que ça met énormément de temps à changer. J'ai été extrêmement touchée par l'accueil qui a été réservé à la première traduction de ce livre, mais à chaque rencontre que j'ai pu faire ici, d'ailleurs la première était peut-être dans cette salle, j'ai eu des spectateurs, des lecteurs français noirs qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient beaucoup aimé le livre. Ils étaient très enthousiastes au sujet de ce livre, mais toujours ils m'interrogeaient sur le titre. Pourquoi ce titre ? Et il y avait de très bonnes raisons au choix de ce titre. Mais j'ai été particulièrement sensible à cet accueil réservé par les lecteurs noirs, par la communauté noire ici dans ce pays en particulier. Parce que même si moi je suis un Américain, je voulais que les Noirs d'ici aussi se sentent liés, ressentent une forme de connexion à ce livre et pas uniquement au texte, aussi à la couverture.
Et comment vous expliquez que la France en particulier, puisque le livre a été traduit dans de nombreux autres pays, mais donc France dont vous parlez dans le livre, pays où vous avez vécu plus d'une année, je crois, avec votre famille, vous avez étudié le français. Donc comment vous analysez le fait que ce livre en particulier ait trouvé cet accueil et le trouve encore aujourd'hui pourquoi cette réception très forte en France? Qu'est-ce que ça dit peut-être d'un lien franco-américain, ou enfin, comment vous l'analysez rétrospectivement?
Wow, it's gonna be difficult. C'est un peu complexe. I think you have to start with the fact that I believe. Well, I won't get myself into trouble. Let's just say that there is a very large black population in France. And one of, if not the largest in Europe. And so there's already a particular, I think, history. It's not just the fact of the population, it's the fact of colonialism and France's relationship with Africa. I think it's also the fact of slavery. The Haitian Revolution lives in the African-American mind, very, looms very large in the African-American mind. When I was a child, I had a little, like, rag doll, and the rag doll's name was Toussaint. And so, like, even at that, you know, very, very young age, there was, you know, that idea. I am trying to avoid the cliche answers of, you know, jazz and Baldwin and, you know, that sort of thing. I guess, because you can see I'm fumbling for the answer, and I think the reason why is because the author only has but so much insight into themselves. You know what I mean? Like, it's tough for me to tell you why anybody reads anything that I write. I know what I'm trying to do. You know, I can answer that. I know what I'm, you know, attempting to do, but my relationship to this book is as the writer, which is to say multiple drafts, revisions. But by the time you see it, like, your relationship with it is very, very different. I guess that's a long way of saying I don't know. I don't know why it was received the way it was. You know, it was, though, and, you know, I don't know. You know, I think there are probably other people, maybe in this audience, who probably know better than I do.
D'abord, il faut partir tout simplement d'un fait, peut-être, même si je vais y aller frontalement, même si je m'attire peut-être quelques histoires. Premier fait, il y a beaucoup de Noirs en France. C'est sans doute la plus grande population noire, ou une des plus grandes en tout cas des pays européens. Donc déjà, il y a une histoire particulière, peut-être. C'est pas uniquement une question démographique, c'est évidemment aussi le fait qu'est le colonialisme. C'est aussi la relation particulière entre la France et l'Afrique. C'est le fait aussi qui est l'esclavage. La révolution haïtienne, elle est très vivante dans l'esprit, dans la culture africaine-américaine. Moi-même, quand j'étais petit, j'avais une poupée de chiffon qui s'appelait Tussoc. Toussaint, pardon. Excusez-moi, Toussaint. Ce que je veux dire par là, c'est que tout jeune, j'avais déjà ce rapport-là. Je crois que j'essaie de vous répondre simplement en évitant justement de passer par le cliché de Baldwin, des années de jazz, etc. Et du rapport à la France, je cherche une réponse. Et en même temps, d'un autre point de vue, en tant qu'auteur, quand on est auteur, on ne connaît que sa propre intériorité. C'est-à-dire, moi, je sais pourquoi j'écris ce que j'écris, je ne sais pas forcément pourquoi vous le lisez. Je sais ce que j'essaie de faire, mais ma relation à ce livre, elle est vraiment une relation d'auteur, une relation d'écrivain. Et je passe par toutes les étapes de l'écriture d'un livre, la confection de différentes versions, etc. Et au moment où vous le lisez, la relation que j'ai avec le texte peut encore avoir changé, être tout à fait différente. Donc en gros, je vous réponds par de longues voies détournées pour vous dire que je ne sais pas pourquoi il y a cette réception particulière en France et qu'il y a certainement plein de gens dans la salle qui le savent mieux que moi.
In fact, can I actually thought of some more? As I was thinking, you know, during the translation, and I do think there are two things that are happening in common, and I think this is maybe outside of myself as the writer. It's quite clear to me that France is in the midst of an identity crisis. That's an understatement. But it is quite clear that it is. You see, when you have power, particularly when you have wealth, and you have guns, you think that because you have those things, and you're in a relationship with somebody who does not have those things, a dominant relationship, that you can have that relationship solely on your terms. You think that you can force them to speak your language, in some cases adopt your religion, your culture, and that they won't bring themselves to it. And perhaps most dangerously, that you will remain pure and unchanged by that relationship, that there won't be an exchange, that you are free to economically exploit as much as you wish, and that your culture and your identity will remain pure. That is very familiar to me as a Black American. And I see that here, and I probably see it here in a way that I didn't see when I came before. And so I think the context, Frederick Douglass has a quote that I think about all the time, and I'm sorry about this. I'm so sorry. It is a man is worked on by what he works on. As he tries to, sorry, maybe you don't have to translate it. It's a man is worked on by what he works on. Yes, difficult. And the idea is, as he attempts to carve out his context, the context carves him out too. That he is not in total control of the relationship. And so I find myself in a country right now at this moment where I look around and I see that there is a dependency, at least here in Paris, on the labor of certain people. But I don't know how much Paris or certain part of Paris wants those people. That relationship is very, very familiar. And I understand that on a deep level, and I think maybe it's in the subtext of the book. I'm so sorry.
Frederick, of course. Juste quelque chose supplémentaire auquel j'ai réfléchi en parlant. Quelque chose qui m'apparaît très clair, qui n'a rien à voir avec ma place d'écrivain, quelque chose qui m'apparaît très clairement ici, en venant en France, et encore plus aujourd'hui, c'est à quel point la France est en pleine crise identitaire. Et c'est peu de le dire. Ce qui se passe, c'est que quand on a le pouvoir, et en particulier quand on a la richesse, quand on a les armes, on pense que la relation qu'on peut avoir avec ceux qu'on domine parce qu'eux n'ont pas ce pouvoir, cette richesse ou ces armes, on peut la définir en ses propres termes. C'est-à-dire qu'on est le seul à définir la forme que prend cette relation, qu'il n'y a pas d'échange et qu'il n'y a pas de réciprocité. On pense qu'on peut forcer ces personnes qu'on va dominer à adopter votre langue, parfois votre religion, parfois votre culture, et qu'eux n'apporteront rien en échange dans la relation, qu'on pourra rester pur, ce qui est sans doute encore le plus dangereux. Il y a cette idée donc qu'on va pouvoir librement exploiter, peut-être s'enrichir dans cette relation-là, mais tout en demeurant pur et en gardant sa culture intacte. Et c'est quelque chose qui m'est extrêmement familier en tant que noir américain, et c'est quelque chose que je vois là en France d'une autre manière que ce que j'avais pu voir les précédentes fois où j'étais venue. Et donc il y a cette citation de Frederick Douglass qui a certainement été mieux traduite, parce qu'en général on prend le temps, qui est l'idée de dire que ce que fait un homme l'affecte en retour, pour le dire de façon un peu simplifiée, c'est-à-dire que quand on agit sur le contexte, sur les conditions dans lesquelles on est, ces conditions et ce contexte vous affectent également, et donc on n'est jamais totalement en contrôle de la relation qu'on a au monde. Et c'est quelque chose que j'observe aujourd'hui dans ce pays, que je vois en particulier à Paris, quel point Paris en tout cas dépend du travail d'une certaine population, et à quel point peut-être, en tout cas une partie de Paris n'a pas forcément envie justement de la présence de cette population, ne veut pas les voir ici, et donc c'est une relation qui est extrêmement familière, encore une fois, que je comprends profondément et qui fait partie du sous-texte de ce livre.
Dans l'ouvrage, vous ne cherchez pas du tout à bercer votre fils d'illusions. Au contraire, vous l'invitez à être lucide et conscient et à toujours ouvrir les yeux. Vous écrivez « Je ne t'ai pas dit que ça allait s'arranger parce que je ne l'ai jamais cru ». Est-ce que 10 ans, presque 10 ans après, l'ampleur prise par le mouvement Black Lives Matter, sa médiatisation, est-ce que ça a changé un petit peu la donne selon vous ? Est-ce que vous avez un tout petit peu plus d'espoir ? Ou est-ce que ce texte, comme vous avez commencé par le dire, reste à vos yeux intemporel, et si votre fils a aujourd'hui autour de 25 ans, le texte, lui, n'aurait donc pas vieilli et resterait toujours aussi présent et contemporain.
Most of what's happened in the past 10 years fits into a historical pattern. Yes, particularly around 2020, there was a very real movement, which, you know, captured the world's attention. And, you know, you saw this protest. But at the same time, you then saw this huge pushback, which is really, really dangerous and really, really problematic. You know, I was asked in an interview earlier today, you know, am I aware that there's this whole thing here in France about le wokisme? Mm-hmm. And I said, yes, of course I am. They got it from us. Yes. And it's a very, very similar thing. And what is happening now is there are writers, activists, and I have to be honest. It is now, you know, a beyond, and I guess it always was, beyond just race and black people. It's become, you know, issues around gender. When I came here in 2015 or 16, when I was touring for the book, I didn't have to worry about my book being banned in America. I have to worry about that now. You know, it's a true fact. Books that are written from outside of the experience of straight white men are under assault across the country, you know, be they gay, be they trans, whoever. I think, as I said earlier, that there's a crisis of identity. A significant minority of white people in America do not want to share the microphone of democracy. They don't want to accept that how the country is defined will no longer just be defined by them. This is deep, deep rooted. As profound as the protests were in 2020, they were not so profound that they could wash away that kind of history. And that was the root of this book. It was really the historical.
Ce qui s'est passé ces 10 dernières années se place dans une continuité historique. Effectivement, en 2020, il y a eu un mouvement extrêmement important qui a attiré l'attention du monde entier. Il y a eu ces manifestations, mais très vite, il y a eu aussi une très forte résistance. Et c'est ça qui est le danger, c'est ça qui est extrêmement problématique. Ce matin, un peu plus tôt dans la journée, on m'a posé une question en interview. On m'a demandé si j'étais consciente de cette problématique du wokisme en France. J'ai dit, bah oui, évidemment, ça vient de nous. C'est tout à fait similaire à ce qu'on a vécu, ce rôle aussi des écrivains, d'activistes. Et puis aussi le fait que ça dépasse, et ça, sans doute que c'était déjà le cas depuis longtemps, aujourd'hui, ça dépasse très largement la question de la race, c'est aussi la question du genre. Quand je suis venue ici parler du livre en 2016, j'avais pas à me soucier d'une possible interdiction de mes livres aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le cas. Partout dans le pays, les livres qui sont écrits en dehors du point de vue des hommes blancs hétéros sont attaqués partout aux États-Unis. Ceux qui sont écrits par des gays, des trans, etc. Il y a une véritable crise identitaire, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a une petite minorité puissante d'hommes blancs qui ne veulent pas partager aujourd'hui le micro de la démocratie, qui ne veulent pas accepter le fait que ce que sera le pays à l'avenir, ils ne seront plus les seuls à le définir. Et c'est quelque chose qui est vraiment très profondément ancré. Et donc même si les manifestations ont été vraiment très fortes en 2020, c'est pas au point d'effacer toute cette histoire. Et précisément, le point de départ de ce livre, le focus de ce livre, c'était justement cette dimension historique.
Et dans ce contexte politique que vous venez de décrire, comment vous abordez la tenue de la prochaine élection présidentielle qui se tient en novembre? J'imagine qu'on vous pose souvent la question en ce moment. Dans quel état d'esprit êtes-vous?
It's not good. It's not good. It doesn't look good.
Vous êtes inquiet?
Yes, very much. Très. Très, très stressé. Yes. If I'm honest, I'm trying to avoid talking about this. But the massacre, I guess outside of Gaza, and the subsequent massacre of, I believe, at this point, 27,000 people who are disproportionately children, is obviously a moral outrage, but it is, it's a huge, and it feels profane to even say it this way, but it is actually a huge problem for Joe Biden and a huge problem for America and a huge problem for the election, because this is a country that has been at war directly or indirectly in the Middle East for at least 25 years. People are tired. And when we, you know, see this footage or we read in the New York Times, somebody is invading a hospital, digging up graves, as I read today, shooting people with drones after they've been promised safe passage. We as Americans, we are going to pay for this. And we know we're going to pay for it. This is being done in our name. And I think 20 years ago, Americans had much, much less knowledge of Palestine and Palestinians. And that has changed. It's changed for me personally. But I don't think I'm alone in that. And, you know, it's very similar to Vietnam. Why are we dropping bombs on it? What are we doing here? Like, what are we trying to accomplish here? Like, what justifies this? You know, you come into my house and slaughter my family, so I slaughter your whole neighborhood? What is that morality? Why is that, you know, and we've done this before. We did this after 9/11. You see, we directly know how this goes. It is a huge problem. It's a huge, huge, it's a moral problem, first and foremost, but it's actually a huge political problem for Joe Biden. And I think it's very dangerous.
Alors, les prochaines élections, ça s'annonce mal. Hein. C'est plutôt quelque chose, effectivement, de très stressant. Et pour être tout à fait sincère, j'essaie d'éviter d'en parler. Mais ce qui s'est passé aux portes de Gaza, le massacre aux portes de Gaza, et ensuite le massacre qui a suivi de 27 000 personnes à ce jour, je crois, avec une écrasante majorité d'enfants, c'est un tel scandale moral que ça peut paraître presque profanatoire que de souligner que c'est aussi un véritable problème politique pour les Américains et pour Joe Biden en particulier pour les élections américaines. Parce que notre pays est en guerre de façon directe ou indirecte au Moyen-Orient depuis 25 ans maintenant. Et les Américains en ont marre, en ont conscience et en ont marre. Quand ils voient ces images, quand ils lisent le New York Times, quand on voit qu'on envahit un hôpital, qu'on va jusqu'à déterrer les cadavres dans les tombes, comme je le lisais tout à l'heure, qu'on tue des gens avec des drones... c'est quelque chose en fait dont nous, les Américains, on paiera le prix aussi parce que ce sont des actes qui sont commis en notre nom. Et il y a encore 20 ans, les peu d'Américains savaient grand-chose de la Palestine ou des Palestiniens, mais c'est quelque chose qui a changé. Moi, aujourd'hui, j'ai le sentiment de beaucoup plus être conscient de la Palestine et des Palestiniens, et je pense que je ne suis pas le seul. Et en fait, c'est quelque chose de très similaire à ce qui a pu se passer au Vietnam. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi est-ce qu'on y va ? Qu'est-ce qui justifie, en fait, de participer à cette guerre ? Qu'est-ce que c'est que cette logique qui veut que tu viens chez moi, tu tues ma famille, ben je vais effacer rayer ton quartier de la carte, où est la morale là-dedans? Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, donc on sait où ça mène. Et c'est un énorme problème moral aujourd'hui, mais c'est aussi un énorme problème politique pour Joe Biden et qui aura des conséquences sur les élections.
Donc c'est plutôt ce cadre et cette dynamique internationale et géopolitique qui vous inquiète, qui vous préoccupe, plutôt qu'un possible retour de Donald Trump, même si les deux peuvent bien sûr être liés.
Yeah, I am. Boy, I don't even want to think about that.
Okay, sorry.
No, it's, I mean, it's why we're here, right? Yeah, it's bad. It's really, really bad. I think one of the things that, and I haven't quite figured this out, so forgive me if my answer's a little incomplete, because people think of writers as having this kind of received wisdom, like you come out the womb and you just know. But I actually think if you're honest and you're doing it right, you're always in motion. So you're always figuring out some things you know, but you're always figuring it out. I say that to say, just watching what I'm watching on the news, seeing what I frankly saw firsthand this summer, I feel a little profane when I like worry about what the impact of Trump will be, because I guess I've been directly acquainted with people who it really doesn't matter, clearly. It doesn't matter if it's Biden or Trump. I mean, I guess if it's Trump, it'll be that much that much worse, you know, a greater evil. But it's the difference between somebody killing 50 of your family members and somebody killing 100. I mean, I guess you would say, yes, I'd rather it be 50, but like the mind like reels at that thought, at that kind of calculus, that kind of math. And so I don't know. I have. It would have been easier before for me to think about like what was bringing Trump back, what it meant, where it sat in the world. But when you've become intimately acquainted with people who are on the worst end of it, it's a little hard. I'm sorry, that answer's a little incomplete.
Alors c'est quelque chose auquel j'ai vraiment presque envie de refuser de penser, mais la situation est effectivement très grave. C'est quelque chose que je n'ai pas encore complètement analysé, donc ma réponse va être partielle. Les gens voient parfois les écrivains comme des gens qui ont une espèce de sagesse innée dès la naissance, de savoir. Bon, il y a des choses qu'on peut savoir, mais on est en permanence en mouvement et en permanence en train d'essayer aussi de comprendre les choses. Mais je dis ça parce que avant, peut-être de ces derniers mois en particulier, ce que j'ai vu dans l'actualité, mais aussi ce à quoi j'ai été confrontée de façon très directe au travers de personnes que j'ai rencontrées, j'aurais pu peut-être analyser et m'inquiéter de l'impact effectivement du retour de Trump et des raisons, des motivations de ce retour. Mais j'ai rencontré des personnes pour qui Trump ou Biden, finalement, ça importe peu, parce qu'ils sont dans une situation qui est de toute façon tellement dramatique et tellement grave qu'il y a effectivement un des mots qui est pire que l'autre, mais c'est la différence entre avoir quelqu'un qui massacre 50 de vos proches ou 100 de vos proches. Et effectivement, 50, c'est peut-être mieux, mais c'est quand même un drôle de calcul. Et encore une fois, j'aurais peut-être eu plus de facilité si j'avais pas ce rapport intime et personnel avec des gens qui sont vraiment dans la pire situation, quelles que soient les circonstances politiques. J'aurais peut-être eu plus de facilité à analyser ce possible retour de Trump.
Oui. On peut peut-être indiquer qu'en 2018, il y a un livre de vous qui s'appelle « 8 ans au pouvoir » qui est paru aux éditions Présence africaine et qui reprenait des essais, des textes que vous avez fait paraître, notamment sur l'ère Obama. Vous y écrivez notamment, en résumé, Obama, sa famille et son administration furent l'exemple vivant de la facilité avec laquelle les Noirs pouvaient être entièrement intégrés à la culture ambiante, à la politique et aux mythes américains. Et je me demandais, donc, comme je l'ai dit, vous êtes journaliste, vous avez longtemps écrit pour The Atlantic. Qu'est-ce que cette écriture journalistique vous a apporté ou vous apporte encore aujourd'hui? Et est-ce que pour aborder, pour penser les questions que vous venez d'évoquer liées au... à la politique, à la question de la démocratie elle-même. Est-ce que c'est un travail, une écriture qui vous semble toujours essentielle et toujours nécessaire pour comprendre et pour penser ce qui est en train de se passer?
Yeah, I think, just to make sure I got it right.
The use of the journalistic writing.
Yes, okay, all right. Mm-hmm. So I think I think when most of those essays were written, social media was not what it is today. And that is unfortunate. And I don't want to come out like I'm an anti-technology person. What I am is anti-vulgarity, and I'm anti-vulgarians. I am against people who think that their formulas and their algorithms, et cetera, are the only way of understanding the world. Those are the kind of people who are increasingly in control of how information is dispensed. Twitter was always problematic. It is, effectively a hate machine right now. Journalists in America and journalistic institutions entered into this relationship with social media, Facebook, Instagram, to some extent, Twitter. And it was a huge mistake. It was a really, really huge mistake. And so I do think, I don't want to come off too negative, I do think journalism is very, very important. I'm still practicing it myself, even if I haven't published in a long time. But I am. But I think the information environment is much more profane now and flooded with just... outright lies. I think COVID was a part of this. I think the fact that a lot of American institutions in general performed so poorly during COVID, I think perhaps more importantly that there is a movement alive to make those institutions perform poorly, leads to a general distrust in institutions, period. And journalism is part of that. So yes, I believe in it as a truth-telling and as a tool for discovery. But I think we're in a much darker place right now in terms of information and ability to actually communicate than we were, certainly when I was writing those articles.
Quand j'ai écrit les articles dont vous parlez, de ceux qui sont dans 8 ans au pouvoir, les réseaux sociaux n'en étaient pas du tout au stade où ils en sont aujourd'hui, malheureusement. Je ne veux pas avoir l'air anti-technologie, technophobe, mais anti-vulgarité, oui. Et surtout, ce à quoi je m'oppose, ce sont ces gens qui pensent que leurs algorithmes et leurs formules sont la seule manière de comprendre le monde. Et ce sont ces gens qui, de plus en plus, contrôlent la diffusion de l'information aujourd'hui. Twitter a toujours été problématique. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu une véritable machine de haine. Et les journalistes, les institutions journalistiques sont entrées dans un mode de relation avec les réseaux sociaux. Se sont investis aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et ça, pour moi, c'est profondément une erreur. Encore une fois, je ne veux pas avoir l'air trop négatif sur la pratique journalistique en tant que telle, que je continue moi-même à pratiquer, même si je n'ai pas publié depuis longtemps. Mais le secteur de l'information a véritablement été inondé par les mensonges. Le Covid, c'est un excellent exemple de ce moment-là. C'est un moment où on a vu beaucoup d'institutions américaines faillir dans la gestion de la crise, mais aussi un mouvement justement de désinformation bien vivant qui poussait dans le sens de cette faillite. Et pour moi, le journalisme a fait partie dans cette défaillance des institutions. Le journalisme a aussi joué un rôle. Je crois profondément au journalisme en tant que moyen justement de trouver, d'exprimer la vérité et en tant que moyen de découverte. Mais il me semble qu'aujourd'hui, par rapport à l'époque où j'écrivais ces essais-là, on est dans une époque beaucoup plus sombre justement en termes d'information et d'accès à l'information.
Et est-ce que c'est aussi pour ces raisons que, et peut-être en raison de votre notoriété qui peut peut-être rendre plus compliqué certaines enquêtes, certains travaux de terrain journalistique, mais est-ce que oui, c'est pour ces raisons que vous avez voulu plutôt vous concentrer sur l'écriture littéraire ou romanesque, dans la différente palette de genres que vous pratiquez?
Non, j'adore le journalisme. I love it. Mm. I love it. I'm gonna try to go slow. It kind of goes back to your earlier question about like being able to understand why people. Why, you know, this book had whatever effect it had. The thing you have to understand is, like, writing is essentially a selfish activity for me. In my mind, the job of every writer, and every journalist in France is a difference, every journalist and every writer is clarity. Clarity is always the goal, to clarify. People will use different tools to clarify. Sometimes it's reporting through journalism. Sometimes it's research. Sometimes it's imagination. And for me, whatever tool seems appropriate at that particular time is the one I reach for. I think there will be some journalism, I know, that will be appearing for me relatively soon. So I haven't given it up. I think I've maybe become a little bit more reflective. I would be lying if I did not admit that like many other American writers, I was seduced and diverted by Hollywood. Mm. Yeah, I know, right? Should have known. No. I mean, some of that has been good too. Because, you know, in that I've learned a lot about writing in that too, you know? But for me, like, journalism is one of the great tools of self-education, of autodidacticism. I'm a college dropout. And that's me at my core. I was a terrible student in school. That is me at my core. I've always had to find other means of acquiring information, of clarifying for myself. And journalism is a powerful, powerful tool of clarification for me. Mm. In one of the essays, well, I guess not here, actually. I think it was published elsewhere. Anyway, in 2014, but just before this book, in fact, I'll just use this book. The goal of this book for me, I know it says it's a letter to my son, but the goal for me was to understand how a young man who was the paragon of American virtue ended up being killed by the people he paid to protect him. That's it. That's the only question. And the book seems to go a bunch of other places, but that was the question that I was trying to clarify for 15 years. And even in this book, to answer that question, I had to go and do journalism and talk to his mother. Whatever the information environment is, journalism is still a very powerful personal tool for me to understand.
Non, non, j'adore le journalisme. En fait, ça revient un peu à la question que vous aviez posée tout à l'heure, celle de savoir comment on peut comprendre pourquoi un livre a un impact, comment il est reçu par le public. Pour moi, fondamentalement, écrire, c'est d'abord une activité égoïste. En fait, pour moi, le travail de n'importe quel type d'écrivain, que ce soit un écrivain ou un journaliste, puisqu'en France, vous faites la différence, c'est de rechercher la clarté, c'est de chercher à clarifier les choses. C'est ça l'objectif ultime. Et quel que soit l'outil qui semble approprié à un moment donné pour cette entreprise, ça peut être un reportage, ça peut être faire de la recherche, ça peut être appeler à l'imaginaire. Moi, quel que soit l'outil, celui qui me semblera adapté, c'est celui dont je me saisirai à ce moment-là. Et je suis persuadée que je reviendrai très bientôt aussi à du journalisme. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout abandonné. C'est peut-être simplement que je vais un peu plus loin dans la réflexion. Je suis plus réfléchie dans mon rapport au journalisme aujourd'hui. Je mentirais aussi si je n'admettais pas que, comme beaucoup d'autres écrivains américains, j'ai été séduite par les sirènes d'Hollywood. J'aurais dû évidemment savoir comment ça se passerait, mais il y a eu quand même du bon là-dedans et j'ai aussi beaucoup appris sur l'écriture en allant comme ça vers le cinéma. Mais le journalisme, pour moi, ça reste un outil fondamental et extrêmement puissant. D'abord parce que je suis autodidacte et je suis quelqu'un qui n'a pas terminé ses études universitaires, qui a toujours été un mauvais élève. C'est fondamentalement qui je suis et donc j'ai toujours eu besoin de rechercher d'autres façons de clarifier justement les choses pour moi, de comprendre pour moi, et le journalisme a toujours été un outil extrêmement puissant. Pour prendre l'exemple de ce livre-là, Entre le monde et moi, je le présente comme une lettre à mon fils, mais fondamentalement c'est un livre que j'ai écrit pour répondre à une unique question qui était celle de comprendre comment un jeune homme qui était vraiment le parangon, l'archétype de la vertu américaine avait fini par être tué par des gens qui étaient payés pour le protéger. C'était une question très simple et le livre part dans d'autres directions, il explore toutes sortes de choses, mais c'est ça la question fondamentale que j'ai essayé de clarifier et que j'ai voulu clarifier pendant des années et des années. Et encore une fois, le journalisme a été un outil nécessaire et il a fallu aller parler à la mère de ce jeune homme pour comprendre ça. Donc quel que soit mon regard aujourd'hui sur le milieu de l'information, sur ce qu'il devient, pour moi le journalisme restera toujours un outil extrêmement puissant.
Je pense qu'on a compris que ce texte se construit à partir de beaucoup de genres, de pattes d'écriture différentes. Et dans la préface inédite, vous écrivez que vous avez toujours eu du mal, d'ailleurs, à définir ce texte et que quand votre éditeur vous demandait ce qu'il en était, vous ne saviez pas quoi répondre. Est-ce que c'est une lettre, un essai, un récit ? C'est difficile de répondre. C'est sans doute tout cela à la fois. Mais ce qui est sûr, quand vous écrivez, vous êtes plutôt dans une logique de déconstruction et de... Vous avez cette expression que je trouve très, très révélatrice. Vous aimez gratter la surface. Vous dites aussi que vous voulez poser un regard sans concession sur notre propre, enfin votre propre ou sa propre innocence. En général. Et je me demandais, avec cette vision de l'écriture, comment vous aviez abordé l'écriture romanesque avec la danse de l'eau ? Et est-ce que vous pensez que le roman, au contraire, lui, enjolive, embellit le réel, alors que votre pratique d'écrivain semble aller dans l'autre sens, plutôt d'un désenchantement de la réalité, enfin, me semble-t-il.
C'est clair. Oui, je pense, oui. What's interesting is I started La Danse de l'eau before Entre le Monde et Moi. So I published my first book, which was I think it's Le Grand Combat here, and I published that in 2008. And my editor, after we were done, he said, you know, you really should try a novel. And I always thought of fiction writers as like magicians. Like how do you do that? Like, how do you like imagine all of that? Like, how do you hold all of that in your head, you know? And so the idea that I should try that, I was like, that sounds crazy, but if you think I can do it, I'll try it. And boy, I wrote, I think, 4 versions of that book over 10 years. It was really, really hard. I mean, I published 2 more books before, you know, it was published. I published other journalism before it was published. But, you know, one of the places where it started to clarify for me was that, much like my nonfiction, the novel is at its best, at least for me, if there's something that I am selfishly interested in, if there's some question that I can explore that I can't through my nonfiction, what is me imagining myself in another situation or imagining another situation, what does that give me? You know, it's funny. It's actually also very similar to the comic books that I wrote. It's it's the exact same.
Je voulais vous poser une question, bien sûr, sur ces comics books.
Okay. Well, I'll save that then. I'll save that. But what I realized was, for all of my theorizing and all of my nonfiction about slavery, I had never really tried to think about what, like the day-to-day quotidian life was like. You know, like I would write almost like in broad strokes about these situations. Somebody's mother got sold off. You know, somebody, you know, never saw their wife again. But what did that feel like? You know? And to try to construct a believable human being who experienced that, to really put yourself in that place, that was different, and but it was important. Do you know what I mean? Because like the nonfiction is okay. What was this? But I think the what did it feel like is just as important for people to feel like these are, you know, real human beings. Did that work?
Yeah.
Okay.
Ce qui est intéressant, c'est que La danse de l'eau, c'est un livre que j'ai commencé à écrire avant Entre le monde et moi. En fait, j'avais publié un premier livre qui s'appelle en français Le Grand Combat, qui a été publié en 2008 à l'origine. Et c'est mon éditeur qui, quand j'ai eu terminé ce livre, m'a encouragé à essayer d'écrire un roman. Pour moi, les auteurs de fiction, c'était des magiciens. J'imaginais pas très bien comment y arriver. Ça me paraissait complètement dingue de sortir tout ça de sa tête. Mais puisqu'il m'a encouragé, je me suis dit que j'allais essayer. Et en 10 ans, j'ai écrit 4 versions de ce livre. C'était extrêmement difficile. Entre-temps, j'ai publié 2 autres livres. J'ai continué à faire du journalisme. Et jusqu'à ce que finalement, La danse de l'eau soit terminée. Le moment où ça s'est clarifié pour moi, c'est quand j'ai compris que comme pour la non-fiction, le roman fonctionnerait pour moi, en tout cas, il serait meilleur pour moi quand j'y trouverais un intérêt égoïste et personnel, encore une fois, une raison de m'y intéresser, quelque chose, une question à explorer, à laquelle moi je cherchais une réponse, et une réponse que je ne pouvais pas trouver par la non-fiction. Et le moment où je me suis rendu compte que m'imaginer dans une autre situation, dans une autre vie, ou imaginer cette autre situation tout court, pouvait peut-être m'offrir une manière de comprendre, une manière de répondre. Et effectivement, c'est tout à fait similaire à ce qui se passe aussi avec les comics que j'ai écrits. Et c'est le moment où je me suis rendu compte, en fait, que malgré tout mon travail théorique sur la question de l'esclavage, j'avais jamais poussé la réflexion réellement jusqu'à ce à quoi pouvait ressembler la vie quotidienne d'un esclave ou d'une esclave. J'avais pu écrire un peu comme si j'avais brossé un tableau à grandes touches de pinceau sur tel personnage dont la mère avait été vendue ou tel autre qui n'avait jamais revu sa femme, mais je n'étais jamais allée dans ce que ça faisait à quelqu'un de vivre de cette expérience-là, d'avoir ce vécu-là. Et c'est là où c'est ce moment-là en fait où j'ai compris que le roman pouvait permettre ça et que c'était extrêmement différent en fait d'essayer de se mettre dans la peau de celui qui expérimentait ça, que ça apportait des réponses différentes. La non-fiction, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est un phénomène. La littérature, la création, l'imaginaire, elle permet d'essayer de comprendre ce que ça fait, ce phénomène, ce qu'on ressent.
Mais merci beaucoup. L'heure a tourné. On doit malheureusement s'arrêter, mais c'était passionnant. Merci pour vos réponses et votre intelligence et vos analyses. Vous allez pouvoir retrouver Tane Easy Coates pour une séance de dédicace, mais très rapide car il a d'autres obligations. Mais il sera dans le hall pour signer quelques ouvrages. Voilà, merci beaucoup.
Merci
Marguerite.
Merci.